Chers amis auditeurs de Radio Espérance, bonjour. La tendance est incontestablement à l'autoritarisme formel, d'autant plus implacable qu'il rejoint l'hystérisation collective qu'aggravent les réseaux sociaux, apparemment dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la gestion de la crise sanitaire, de l'information sur la guerre en Ukraine ou bien dans l'Église, de la gestion de la crise des abus ou de la guerre liturgique que l'on aurait rallumée. On s'en tient à la dialectique des mots qui pollue la communication et plus personne n'envisage, semble-t-il, la réalité de ce qui est dit et les choses telles qu'elles sont, si bien que l'arbitraire et le mensonge ont peu à peu réduit la vérité au seul vecteur de l'image, dont on se rend compte, mais trop tard, qu'elle est hautement manipulable et manipulatrice, puisque son siège est dans l'imagination et non pas dans l'intelligence rationnelle. Dès lors, la chaîne de commandement, pour parler comme les militaires, ne fonde plus sa légitimité que dans son seul formalisme, si bien qu'elle ne peut plus obtenir l'adhésion d'une obéissance libre, mais doit s'imposer par abus de pouvoir en disqualifiant a priori tout dissentiment. Et de fait, dans le texte de 1970 que nous retrouvions, pour discerner les enjeux de la crise de l'Église à cette époque de l'immédiate après-concile, le double critère revendiqué pour discerner les abus d'autorité était la loi naturelle et la doctrine révélée telles qu'elles ont été définies par l'Église. Autrement dit, toute conscience droite, tout esprit libre et a fortiori tout enfant de Dieu consacré par son baptême a toujours au-dedans de soi et pour le fonctionnement même de son esprit la lumière naturelle de la raison universelle et, dans la grâce du Christ, les lumières de la révélation et de la foi. La dignité naturelle de la personne humaine est en effet, comme le rappelait inlassablement saint Jean-Paul II, de vivre dans la vérité et dans le bien. Toute autre condition lui est une aliénation. De même que la dignité et la liberté des enfants de Dieu s'enracinent dans la soumission consciente et libre de l'intelligence et de la volonté à la parole de Dieu qui se révèle et dans la sainteté que la grâce du Seigneur leur rend possible. Sachant cela, on ne peut pas ne pas être touché par le fait que les grands écrits du Nouveau Testament, évangile compris, reviennent souvent sur cette double réalité que les fidèles ont reçu l'onction à laquelle ils doivent se référer en temps d'épreuve, dont l'une des pires sera la survenue de faux apôtres et des antichrists et de l'antéchrist qui viendront déguisés en agneaux et seront au-dedans des loups voraces. C'est que l'Alliance nouvelle et éternelle a instauré le culte spirituel, logike latreia, comme y insistait souvent Benoît XVI, dépassant les médiations cultuelles qui instaurent ce rapport de Dieu à sa créature dans la bienveillance réciproque d'esprit à esprit et l'amitié de personne à personne. C'est donc de façon tout à fait légitime que le texte de 1970 énonce les principes d'une action tout à la fois nécessaire et indéclinable selon les conditions diverses et les états de vie dans l'Église. Nous lisons « Nous engageons instamment ceux qui sont en communion avec nous sur le point 1 et sur le point 2 ci-dessus, à s'organiser temporellement pour ne pas demeurer isolés dans le malheur, dans la contradiction et dans la lutte. C'est-à-dire que nous les engageons à concerter et coordonner leur entraide réciproque et leur défense mutuelle. N'allons pas, dans cette situation, demander à nos prêtres des initiatives publiques qui les désigneraient sans nécessité à la persécution, pour qu'ils puissent continuer leur ministère sacerdotal, c'est à nous de les couvrir, de les protéger, bientôt peut-être de les cacher. Ne les mettons pas en avant, mais autant que possible à l'abri. Nous avons besoin du prêtre. Le devoir de chaque chrétien est de refuser l'apostasie, d'en combattre les idées et les entreprises, à la condition de le faire à sa place et sans en sortir. Les moines prient et travaillent, les prêtres prêchent et donnent les sacrements, les familles élèvent leurs enfants, les professeurs enseignent, les écrivains écrivent et publient. Chacun déterminé à vivre et mourir en chrétien, quoi qu'il arrive, chacun mobilisé sur place par son devoir d'État. La défense de la foi étant aujourd'hui le premier devoir d'État dans tous les états de vie. Mais dans le combat de la foi, sans faire de cadeau au suppôt du mensonge. Chers amis auditeurs, je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance.